Chapitre 2 Winston se fraya un chemin le long du sentier, à travers l'ombre et la lumière. Il s'avança dans les flaques d'or là où les rameaux se séparent. Sous les arbres à sa gauche, le sol était couvert de jacinthes des bois. L'air semblait caresser sa peau. De quelque part, au fond du bois épais, venait le roucoulement des ramiers. Il était un peu tôt. Il n'y avait pas eu de difficulté pour le voyage et la fille était si évidemment expérimentée qu'il était moins effrayé qu'il eût dû l'être normalement. On pouvait probablement lui faire confiance pour trouver un endroit sûr. On ne pouvait en général présumer que l'on se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Il n'y avait pas de télécran, bien sûr. Mais il y avait toujours le risque que des micros soient dissimulés, par lesquels votre voix pouvait être captée et reconnue. De plus, il n'était pas facile de faire un voyage seul sans attirer l'attention. Pour les distances inférieures à 100 km, il n'était pas nécessaire de faire avaliser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles dans les gares qui examinaient les papiers des membres du parti qu'elle rencontrait et posaient des questions embarrassantes. Cependant, aucune patrouille n'était apparue. Et sorti de la gare, il s'était assuré en chemin par de prudents regards jetés en arrière qu'il n'était pas suivi. Le train était plein de prolétaires, d'humeur festive grâce au temps estival. La voiture au siège en bois dans laquelle il voyageait était remplie d'une seule famille très nombreuse, allant d'une arrière-grand-mère décrépite à un bébé d'un mois. Elle allait passer l'après-midi à la campagne, chez des beaux-parents. Et essayer d'obtenir, ainsi qu'on l'expliqua ouvertement à Winston, un peu de beurre au marché noir. Le chemin s'élargit et en une minute, il arriva sur le sentier dont elle lui avait parlé. Une simple route à bétail qui plongeait entre les buissons. Il n'avait pas de montre, mais il ne pouvait pas être encore 15 heures. Les jacinthes des bois étaient si épaisses sous les pieds qu'il était impossible de ne pas leur marcher dessus. Il s'agenouilla et commença à en cueillir pour passer le temps. Mais aussi avec une vague idée qu'il aimerait avoir un bouquet de fleurs à offrir quand il rencontrerait la fille. Il avait cueilli un gros bouquet et respirait leur étrange parfum, légèrement fade, quand un bruit derrière lui le glaça. C'était le crépitement caractéristique d'un pied sur des brindilles. Il continua à cueillir des fleurs. C'était la meilleure chose à faire. C'était peut-être la fille, ou il avait peut-être été suivi après tout. Regarder autour de soi, c'était montrer sa culpabilité. Il cueillit une fleur, puis une autre. Une main tomba légèrement sur son épaule. Il leva la tête. C'était la fille. Elle secoua la tête manifestement pour l'avertir qu'il devait se taire, puis écarta les branches et le précéda sur le chemin étroit de la forêt. De toute évidence, elle était déjà passée par là auparavant, car elle esquiva les fondrières comme par habitude. Winston suivit, toujours en serrant son bouquet de fleurs. Son premier sentiment était un soulagement, mais alors qu'il regardait le corps vigoureux et mince se déplacer devant lui, avec la ceinture écarlate juste assez serrée pour faire ressortir la courbe des hanches, le sens de sa propre infériorité lui pesa lourdement. Même maintenant, il lui semblait qu'elle pourrait après tout reculer lorsqu'elle se retournerait et le regarderait. La douceur de l'air et le vert des feuilles le décourageaient. Déjà sur le chemin qui partait de la gare, il s'était senti sale et rabougri sous le soleil de mai. Il avait l'impression d'être une créature d'appartement avec dans les pores la poussière fuligineuse et la suie de Londres. Il lui vint à l'esprit qu'elle ne l'avait probablement jamais vu jusqu'à présent en plein jour. En plein air. Ils arrivèrent à l'arbre tombé dont elle avait parlé. La jeune fille sauta par-dessus et écarta les buissons dans lesquels il ne semblait pas y avoir d'ouverture. Quand Winston la suivit, il constata qu'ils étaient sur une petite colline herbeuse, entourée de grands arbres qui les isolaient complètement. La fille s'arrêta, se retourna et dit « Nous y sommes. » il lui faisait face à plusieurs pas de distance. Jusqu'à présent, il n'osait pas s'approcher d'elle. « Je ne voulais rien dire dans le sentier, » poursuit-elle, « au cas où il y aurait un micro caché. Je suppose qu'il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. Il y a toujours un risque pour que l'un de ces porcs reconnaisse votre voix. Mais ici, nous sommes en sécurité. » Il n'avait toujours pas le courage de l'approcher. Il répéta stupidement. « Nous sommes en sécurité ici ?»« Oui. Regarde les arbres. » C'étaient de petits sorbiers qui avaient été abattus, puis avaient repoussé et envoyé une forêt de tiges dont aucune n'était plus grosse qu'un poignet. Il n'y a rien d'assez gros pour y cacher un micro. De plus, je suis déjà venu ici. Il faisait seulement la conversation. Il s'était rapproché d'elle maintenant. Elle se tenait devant lui, très droite, avec un sourire légèrement ironique, comme si elle se demandait pourquoi était-il si lent à agir. Les jacinthes étaient tombées sur le sol. Elles semblaient être tombées de leur propre volonté. Il lui prit la main. « Le croiriez-vous » dit-il. « Jusqu'à présent, je ne savais pas de quelle couleur étaient vos yeux. » Il remarqua qu'ils étaient bruns, d'un brun plutôt clair, et que les cils étaient noirs. « Maintenant que vous avez vu qui je suis réellement, pouvez-vous encore supporter de me regarder ?»« Oui. » Facilement. J'ai 39 ans. J'ai une femme avec laquelle je ne puis divorcer. J'ai des varices. J'ai 5 fausses dents. Je m'en fiche, dit la fille. L'instant d'après, il était difficile de dire par quel acte elle était dans ses bras. Au début, il n'avait aucune sensation, sauf l'incrédulité pure et simple. Le corps jeune était pressé contre le sien. La masse de cheveux noirs était contre son visage, eh oui. En fait, elle avait tourné son visage vers le haut et il embrassait la large bouche rouge. Elle avait serré ses bras autour de son cou. Elle l'appelait chéri, précieux, aimé. Il l'étendit sur le sol, elle ne résistait aucunement et il aurait pu faire d'elle ce qu'il voulait. Mais la vérité était qu'il n'avait aucune sensation physique, sauf celle du simple contact. Tout ce qu'il ressentait, c'était de l'incrédulité et de la fierté. Il était heureux que cela se produisait, mais il n'en avait pas le désir physique. Il était trop tôt. Sa jeunesse et sa beauté l'avaient effrayé. Il était trop habitué à vivre sans femme. Il ne savait pas pourquoi il restait froid. La fille se releva et détacha une jacinthe de ses cheveux. Elle s'assit contre lui en passant ses bras autour de sa taille. « Peu importe, chérie, il n'y a pas d'urgence. Nous avons toute l'après-midi. N'est-ce pas une splendide cachette ? Je l'ai trouvée quand je me suis perdue une fois, lors d'une randonnée communautaire. Si quelqu'un venait, on pourrait l'entendre à une centaine de mètres de distance. »« Quel est ton nom ?» dit Winston. « Julia. Je connais le tien. C'est Winston. Winston Smith. » « Comment as-tu découvert ça ?»« Je pense que je suis meilleur que toi pour découvrir les choses, chérie. Dis-moi, que pensais-tu de moi avant le jour où je t'ai donné le mot ?» Il n'a pas cherché à lui mentir. C'était même une sorte d'offrande d'amour de commencer en lui racontant le pire. « Je détestais te voir, » a-t-il dit. « Je voulais t'enlever et t'assassiner ensuite. » Il y a 2 semaines, j'ai pensé sérieusement à te fracasser la tête avec un pavé. Si tu veux vraiment le savoir, j'ai imaginé que tu avais quelque chose à voir avec la police de la pensée. » La jeune fille rit avec plaisir, prenant manifestement cela comme un hommage à l'excellence de son déguisement. « La police de la pensée ? Tu n'as pas vraiment pensé ça ? » Eh bien, peut-être pas exactement cela, mais d'après ton apparence générale, simplement parce que tu es jeune et fraîche et en bonne santé, tu comprends? Je pensais que, probablement... Tu pensais que j'étais un membre fervent du parti? Pur en parole et en acte? Bannière, procession, slogan, jeu, randonnée communautaire, tout cela? Et tu as pensé que si j'avais eu le quart d'une occasion, je te dénoncerais comme criminel par la pensée et te ferait tuer ? Oui, quelque chose de ce genre. Un grand nombre de jeunes filles sont comme ça, tu sais. C'est cette maudite chose qui fait ça, dit-elle en arrachant de sa taille la ceinture rouge de la Ligue antisexe des juniors et en la lançant sur une branche. Puis, comme si le fait de toucher sa taille lui avait rappelé quelque chose, elle fouilla la poche de sa blouse et en tira une petite tablette de chocolat. Elle le cassa et en donna un morceau à Winston. Avant même qu'il ne l'ait prise, il savait par l'odeur que ce chocolat était très inhabituel. Il était noir et brillant et était emballé en papier d'argent. Le chocolat était normalement une substance brune et terne et friable qui avait le goût, pour ainsi dire, de la fumée d'un feu de poubelle. Mais à un moment ou à un autre, il avait goûté au chocolat comme le morceau qu'elle lui avait donné. La première bouffée de son parfum avait réveillé en lui des souvenirs qu'il ne pouvait pas cerner, mais qui étaient puissants et troublants. « Où avez-vous trouvé cela ? » dit-il. « Marché noir, » dit-elle indifféremment. « En fait, je suis cette sorte de fille à bien y regarder. Je suis douée pour les jeux. J'étais chef de troupe chez les espions. Je fais du bénévolat 3 soirs par semaine pour la Ligue junior antisexe. Des heures et des heures que j'ai passées collant leur pourriture dans tout Londres. J'en ai toujours un sur moi. Dans les processions, je porte toujours un coin de bannière. J'ai toujours l'air joyeuse et je ne fuis jamais rien. Je crie toujours avec la foule. Comme je dis, c'est la seule façon d'être en sécurité. » Le premier morceau de chocolat avait fondu sur la langue de Winston. Le goût était délicieux. Mais il y avait toujours ce souvenir qui tournait aux limites de sa conscience. Quelque chose ressenti fortement, mais irréductible à une forme définie comme à un objet vu du coin de l'œil. Il l'écarta, conscient seulement qu'il s'agissait du souvenir d'un acte qu'il aurait aimé annuler, mais qu'il ne pouvait annuler. « Tu es très jeune, » a-t-il dit. « Tu as 10 ou 15 ans de moins que moi. Qu'est-ce qui pourrait t'attirer chez un homme comme moi ?»« C'est quelque chose dans ton visage. J'ai pensé que je devais prendre un risque. Je suis doué pour repérer les gens qui ne sont pas à leur place. Dès que je t'ai vu, je savais que tu étais contre lui. » Lui, semblait-il, signifiait le parti, et surtout le parti intérieur dont elle a parlé avec une haine ironique qui mit Winston mal à l'aise, bien qu'il sût que s'il y avait un lieu où il pouvait être en sécurité, c'était ici. Ce qui l'étonnait chez elle, c'était la grossièreté de sa langue. Les membres du parti étaient censés ne pas jurer, et Winston lui-même ne jurait que très rarement, à haute voix en tout cas. Julia, cependant, ne semblait pas pouvoir mentionner le parti, et surtout le parti intérieur, sans utiliser le genre de mots que vous avez vu inscrits à la craie dans des ruelles suintantes. Il ne détestait pas cela. Ce n'était qu'un symptôme de sa révolte contre le parti et de ses méthodes. Cela semblait en quelque sorte naturel et sain, comme l'éternuement d'un cheval à l'odeur d'un foin mauvais. Ils avaient quitté la clairière et erraient à nouveau à travers le damier d'ombre et de lumière. Ils mettaient chacun le bras autour de la taille de l'autre, dès qu'il y avait assez de place pour marcher deux de front. Il remarqua que sa taille semblait beaucoup plus souple maintenant que l'écharpe avait disparu. Leur voix ne s'élevait pas au-dessus du chuchotement. « Hors de la clairière, avait dit Julia, il valait mieux y aller doucement. » Ils atteignirent la limite du petit bois. Elle l'arrêta. « Ne sortez pas à découvert. Il pourrait y avoir quelqu'un qui surveille. Nous sommes en sécurité si nous restons derrière les branches. » Ils se tenaient à l'ombre des noisetiers. La lumière du soleil, filtrant à travers d'innombrables feuilles, était encore chaude sur leurs visages. Winston regarda dans le champ au-delà et reçut un choc étrange et lent. Il le reconnaissait. Il l'avait déjà vu. C'était un ancien pâturage tondu de près, où s'élevaient, çà et là, des taupinières et que traversait un sentier sinueux. Dans la haie inégale qui était en face, Les branches des ormeaux se balançaient imperceptiblement dans la brise, et leurs feuilles se déplaçaient faiblement en masse dense comme une chevelure de femme. Sûrement quelque part à proximité, mais hors de vue, il devait y avoir un ruisseau avec des bassins verts où nagent des nymphes. « N'y a-t-il pas un ruisseau quelque part près d'ici ? » murmura-t-il. « C'est vrai, il y a un ruisseau. C'est au bord du prochain champ, en fait. Il y a des poissons dedans, de très gros poissons. Vous pouvez les regarder s'allonger dans les bassins sous les saules en agitant la queue. »
« C'est presque le pays d'or, » murmura-t-il.
« Le pays d'or ? » ?»« Ce n'est rien, vraiment. Un paysage que j'ai vu parfois dans un rêve. »« Regarde, » murmura Julien. Une griffe s'était posée sur une branche à moins de 5 mètres de là, presque au niveau de leur visage. Peut-être ne les avait-elle pas vues. Elle était au soleil, eux à l'ombre. Elle ouvrit les ailes, les replia ensuite soigneusement, baissa la tête un moment comme pour rendre hommage au soleil, puis se mit à déverser un flot d'harmonie. Dans le silence de l'après-midi, le volume sonore était étonnant. Winston et Julia s'enlaçaient, fascinés. La musique continuait sans cesse, minute après minute, avec des variations étonnantes, ne se répétait jamais, presque comme si l'oiseau voulait montrer délibérément sa virtuosité. Parfois, il s'arrêtait pendant quelques secondes, se déployait et redressait ses ailes, puis gonflait sa poitrine mouchetée et de nouveau éclatait en chanson. Winston l'observait avec une sorte de vague respect. Pour qui ? Pourquoi cet oiseau chantait ? Aucun camarade, aucun rival ne le regardait. Qu'est-ce qui le poussait à se poser au bord d'un bois solitaire et à verser sa musique dans le néant ? Il se demandait si, après tout, il y avait un microphone caché quelque part à proximité. Julien n'avait parlé qu'à voix basse. Il n'enregistrerait pas ce qu'ils avaient dit, mais il enregistrerait le chant de la grive. Peut-être qu'à l'autre bout de l'instrument, un petit homme ressemblant à un scarabée écoutait attentivement. Mais par degrés, le flot de la musique chassa toutes les spéculations dans son esprit. C'était comme une sorte de liquide qui se répandrait sur lui et se mélangerait à la lumière du soleil filtrée à travers les feuilles. Il cessa de penser et simplement ressentit. La taille de la jeune fille dans le creux de son bras était douce et chaleureuse. Il la tourna vers lui et ils se trouvèrent poitrine contre poitrine. Son corps semblait se fondre dans le sien. Il fléchissait partout comme de l'eau sous les mains. Leurs bouches s'attachèrent l'une à l'autre. C'était tout à fait différent des durs baisers qu'ils avaient échangés plus tôt. Quand ils séparèrent leurs bouches, tous deux soupirèrent profondément. L'oiseau prit peur et s'envola dans un claquement d'ailes. Winston posa ses lèvres contre son oreille. « Maintenant, » murmura-t-il.
« Pas ici, »
lui chuchota-t-elle en retour.
« Revenons à la cachette, c'est plus sûr. »
Rapidement, faisant parfois craquer quelques brindilles, ils se faufilaient à nouveau dans la clairière. Lorsqu'ils furent à l'intérieur de l'anneau des jeunes arbres, elle se retourna et lui fit face. Ils respiraient tous deux rapidement, mais le sourire était réapparu au coin de sa bouche. Elle se tenait debout, le regarda pendant un instant, puis chercha la fermeture éclair de sa salopette. Eh oui, c'était presque comme dans son rêve, presque aussi vite qu'il l'avait imaginé. Elle avait déchiré ses vêtements, et quand elle les jeta de côté, c'était avec ce même geste magnifique par lequel toute une civilisation semblait avoir été anéantie. Son corps blanc brillait au soleil. Mais pendant un instant, il ne regarda pas son corps. Ses yeux étaient retenus par le visage couvert de taches de rousseur et par le demi-sourire hardi. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. « As-tu déjà fait cela ?»«
Naturellement. Des centaines de fois. Allons, des vingtaines de fois de toute façon. »«
Avec les membres du parti ?»«
Oui. toujours avec des membres du parti.
Avec des membres du parti intérieur? Pas avec ses porcs, non. Mais il y en a des tas qui voudraient, s'ils avaient le quart d'une chance. Ils ne sont pas les petits saints qu'ils veulent se faire croire. Son cœur a bondi. Elle l'avait fait des dizaines de fois. Il aurait voulu que ce fût des centaines, des milliers de fois. Tout ce qui laissait entrevoir une corruption l'emplissait toujours d'un espoir fou. Qui sait? Peut-être le parti était-il pourri en dessous. Peut-être son culte de l'abnégation et de l'énergie n'était-il simplement qu'une comédie destinée à cacher son iniquité. Si Winston avait pu leur donner à tous la lèpre ou la syphilis comme il l'aurait fait de bon cœur. Tout pour pourrir, pour affaiblir, pour miner. Il l'attira vers le sol et ils se trouvèrent à genoux, face à face. « Écoute, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Comprends-tu cela ?»«
Oui, parfaitement. »
Je hais la pureté, je hais la bonté, je ne voudrais d'aucune vertu, nulle part. Je voudrais que tous soient corrompus jusqu'à la moelle. Aimes-tu l'amour? Je ne veux pas parler simplement de moi, je veux dire l'acte lui-même.
J'adore ça.
C'était surtout cela qu'il voulait entendre. Non seulement l'amour d'une personne, mais l'instinct animal. Le désir simple, indifférencié. Là était la force qui mettrait le parti en pièces. Il la pressa sur l'herbe, parmi les jacinthes tombées. Cette fois, il n'eut aucune difficulté. Le souffle qui gonflait et abaissait leur poitrine ralentit son rythme et reprit sa cadence normale. Ils se séparèrent dans une sorte d'agréable impuissance. Le soleil semblait s'être réchauffé, ils avaient tous deux sommeil. Il tendit la main vers les salopettes jetées à côté, et recouvrit en partie Julia avec. Presque immédiatement, ils s'endormirent pendant environ une demi-heure. Winston se réveilla le premier. Il s'assit et regarda le visage tacheté de rousseur, encore paisiblement endormi, posé sur la paume de sa main. À part sa bouche, on ne peut pas dire qu'elle soit belle. Il y avait une ou deux rides autour de ses yeux, si vous regardiez de près. Les cheveux noirs courts étaient extraordinairement épais et doux. Il lui est venu à l'esprit qu'il ne savait toujours pas son nom de famille, ni où elle habitait. Le corps jeune et vigoureux, maintenant abandonné dans le sommeil, éveilla en lui un sentiment de pitié protectrice. Mais la tendresse insensée qu'il avait ressentie sous le noisetier, alors que la griffe chantait, n'était pas tout à fait revenue. Il écarta la salopette et étudia son flanc blanc et lisse. Dans l'ancien temps, pensa-t-il, un homme regardait le corps d'une fille et voyait qu'il était désirable, et c'était la fin de l'histoire. Mais vous ne pouvez pas avoir de nos jours d'amour ou de luxure pure, car tout était mêlé de peur et de haine. Leur étreinte avait été une bataille, le point culminant une victoire. Ce fut un coup porté au parti. C'était un acte politique.